bride. My sister's my heaven's my voice, my tribe. My sister's my choice, my choice. Vous écoutez Micro Déconstruction, l'émission qui vise à titiller les stéréotypes de genre sur Radio U 101.1 FM. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle émission de Radio U sur le 101.1 FM intitulée Micro-déconstruction. Une émission mensuelle qui explorera les enjeux du féminisme au travers d'une interview. Et pour bien commencer, cette première émission s'adressera aux hommes. En effet, ce soir, nous allons répondre à une question essentielle. Pourquoi les hommes auraient-ils eux aussi intérêt à être féministes ? Chers auditeurs, si vous êtes déjà sensibilisés au sujet, je compte sur vous. Ne partagez pas l'émission uniquement à votre cercle déjà convaincu. Envoyez-la plutôt à vos potes qui sont pour l'égalité, mais qui se disent pas féministes, ce qui, au passage, est une aberration. Nous parlerons tout d'abord du mythe de la virilité, puis de son coût social et financier, avant d'imaginer à quoi pourrait ressembler une société féministe, notamment pour les hommes. C'est pourquoi ce soir, j'ai convié Mathieu, un homme qui semblerait privilégié, blanc, cis, et qui pourrait facilement tomber dans les travers du fameux « not all men ». Pourtant, ce n'est pas le cas. Mathieu se comporte au quotidien comme un allié, conscient du système patriarcal et des privilèges associés. Je trouvais ça donc assez précieux de discuter du féminisme avec un homme. Bonsoir Mathieu, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques secondes ?
Bonsoir Maureen, merci déjà pour cette invitation à la première émission de Micro Déconstruction et voilà, d'avoir l'opportunité de venir humblement témoigner à ce micro. J'ai 37 ans, j'ai grandi en Bretagne une grande partie de ma vie et j'ai continué à grandir encore en tant qu'adulte après à l'étranger et puis pas mal sur Paris avant de revenir en Bretagne plus récemment. À titre personnel, j'ai été élevé principalement par ma mère, alors qui se revendique pas forcément du militantisme féministe, mais qui pourtant porte ces valeurs-là voilà, depuis sans doute toute sa vie. Et donc j'ai grandi un peu avec ces idées-là depuis toujours, même si c'est plus tard que j'ai compris l'importance du combat. Et puis ce qui a pris plus de temps probablement à intégrer pour moi, c'est à quel point les hommes, surtout blancs, si c'était voilà, dont on parle beaucoup, avaient tous ces privilèges. Et ce qui m'apparaît à l'opposé comme flagrant, c'est le fait qu'ils veulent bien les garder, ces privilèges-là. Donc voilà, ravi encore une fois d'être là pour échanger à ce sujet-là.
Eh ben, ravi également de t'accueillir. Et pour introduire le sujet, je vous propose d'écouter un titre parfaitement adapté, Kids de Eddie De Preto.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair de nerfs protéinés. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Ah,
mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Vous écoutez Micro-Déconstruction sur Radio U 101.1 FM. Je vous ai fait écouter ce titre qui illustre parfaitement les injonctions liées au mythe de la virilité. Donc maintenant, on va passer à notre partie 1. Comment définir le mythe de la virilité? Pas simple, je vous l'accorde. J'ai donc choisi pour vous le présenter de m'appuyer sur l'essai d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Elle distingue deux notions, les masculinités, qui sont différentes manières d'habiter le corps et l'esprit quand on est un homme, et la virilité, qui est en réalité le modèle normatif auquel tout homme est sommé de se conformer sous peine de ne pas être considéré comme un vrai homme. Selon elle, nous vivons moins dans le patriarcat, qui serait la domination des hommes sur les femmes, que dans le viriarcat, qui est en réalité la domination des hommes virils sur les femmes et également sur les hommes considérés comme non virils. En résumé, la virilité n'est pas une identité, c'est un carcan dans lequel on veut enfermer les hommes. Comment on reconnaît un homme viril? Un homme viril, c'est un homme fort, courageux, ambitieux, hétérosexuel, stoïque, puissant sexuellement. Et bien sûr, il ne pleure jamais. Il ne s'occupe pas des enfants, ne fait pas le ménage, et ceux qui s'en écarteraient seraient moins hommes. En bref, le culte de la vérité enferme tout le monde dans une compétition permanente où seul l'archétype du mâle alpha est autorisé à gagner. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi s'appuient de nombreux masculinistes. Donc, pour commencer, Mathieu, comment tu te sens de ton côté par rapport à ce modèle imposé, par rapport à, justement, est-ce que tu te considères, déjà, pour commencer, comme un homme viril?
Alors, disons que j'ai conscience des attributs de virilité qui pourraient m'être assignés, une voix masculine, une barbe, je mesure... Je suis assez grand, disons, mais non, clairement, c'est pas quelque chose que je considère, la virilité en ce qui me concerne, et surtout, je m'en revendique pas du tout. Ouais.
Ok, très bien. Et est-ce que tu as pu souffrir, toi, de ton côté, justement, du mythe de la vérité, c'est-à-dire de cette injonction à être grand, fort, viril? Bon, certes, tu es grand, mais ce côté fort, ce côté... non-vulnérabilité, est-ce que tu as pu en souffrir dans ton passé, dans ton enfance?
Alors en souffrir, je ne l'ai pas conscientisé comme ça, en tout cas, alors je l'ai vécu dans mon enfance et ça s'est assez vite fait sentir juste parce que je ne jouais pas comme les autres garçons. J'étais pas fan de foot, je jouais pas à la console et forcément ça crée un écart assez flagrant avec l'école, les copains avec lesquels entre guillemets j'étais censé jouer puisque c'était quand même assez comme ça dans l'enfance où les garçons restaient avec les garçons, les filles avec les filles, etc. Et bon, bah, moi sans ça j'avais quand même un peu de mal à rentrer en lien avec les autres garçons. De mon côté, je préférais jouer au Barbie, jouer à la maîtresse vraiment très très fort, hein, la vraie maîtresse. Je mettais les jupes de ma maman, je me maquillais, j'étais devant mon tableau, etc. Donc j'étais une vraie maîtresse. J'étais quand même plutôt de nature tranquille et on va dire que c'est quand même plus des traits qu'on attribuait aux filles qu'aux garçons.
Effectivement.
À ce moment-là de ma vie. Et donc forcément, je m'en suis un petit peu rendu compte rapidement. Je dirais pas que j'en ai souffert, parce qu'en fait, je m'en suis surtout beaucoup caché. Je jouais pas avec les gars de mon école. Et puis, quand je rentrais chez moi, je jouais pour de vrai avec ce que j'avais envie de jouer. Donc, et je m'en cachais aussi parce que je savais que c'était pas vraiment ce qui était attendu de moi ou de ce que je devais renvoyer comme image. Donc, chez moi, je jouais tranquille en me cachant, en n'en parlant pas trop à grand monde. Et puis, à l'école, pareil, à la place de jouer au foot avec les gars, j'allais faire des tours de récré avec les filles. Pendant que les autres jouaient à la balle ou harcelaient quelqu'un dans un coin de l'école ou ça donnait à d'autres activités. C'était quand même un moment où c'était un tout petit peu compliqué pour moi de me retrouver à une place qui pouvait être la mienne, où j'avais l'impression de, en gros, t'étais soit viril et t'allais jouer au foot, ou tu l'étais pas et du coup t'étais gay, donc tu traînais avec des filles, etc. Et donc ça amenait des conclusions hâtives qui me représentaient pas forcément, et surtout qui avaient pas lieu d'être, je pense, à ce moment-là.
C'est clair. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de ton côté d'une déconstruction ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte de ces injonctions dans la société ? Est-ce que tu as eu une prise de conscience ? Et est-ce que tu as réussi à déconstruire ces injonctions ?
Oui, elles ont toujours été là, je pense, les injonctions. Et on le voit, dans tous les cas, de toute façon, elles sont là, qu'on les conscientise ou pas et qu'on... Voilà, qu'on ait conscience ou pas de ces injonctions, elles sont là, elles sont au-dessus de nous, elles sont à côté de nous, elles sont pour nous parfois, pour un ami, une amie, quelqu'un de la famille, donc voilà, c'est là. Et donc forcément, alors moi dans mon cas, évidemment c'était pas des injonctions, enfin en tant qu'enfant et adolescent même, c'est pas comme ça que je le vivais, je savais juste que j'avais un peu de mal à trouver cette place, et puis ça a été plus facile, on va dire... Après l'adolescence, j'ai grandi dans un milieu rural que j'ai quitté du coup après le lycée, hein, comme beaucoup de personnes, notamment ici dans le coin, dans les villes un peu plus reculées, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif de le dire comme ça. Mais voilà, en arrivant aussi sur des villes plus importantes où il y avait plus de monde, on va dire que les nuances étaient aussi plus grandes, forcément, puisqu'il y avait plus de gens et donc plus de tolérance. Donc voilà, je tissais des liens avec des gens... qui avait une ouverture que les gens que j'avais connus jusque-là n'avaient pas forcément, juste parce qu'ils ne l'avaient pas forcément vécu, j'imagine, aussi. Et donc voilà, j'ai tissé des liens avec des hommes, des femmes, des personnes non binaires, voilà, et ça m'a permis d'accepter différentes choses aussi de mon côté, pour me dire que finalement, on n'était pas juste ou un gars ou une fille, ou viril ou pas viril, et que voilà, il y avait plein de choses au milieu et qu'il y avait probablement autant de définitions que de personnes. Ça m'a aidé déjà à vivre avec, voire à le mettre en avant comme une différence pas négative finalement, de pas être comme tous les autres. Donc ça, à travers les rencontres, à travers les voyages, à travers et puis aussi forcément dans la culture, dans des bouquins, dans des expos, dans des photos où il y a des corps différents, il y a un angle différent qui est pris sur telle ou telle exposition. Et voilà, ça aide aussi à voir que il n'y a pas juste ce qu'on t'a proposé en tant qu'enfant qui existe dans le monde.
Ok, ouais, si je comprends bien, en fait, c'est à partir du moment où tu es arrivé à la ville, donc au moment des études, vers 17-18 ans, où en fait, tu as découvert qu'il n'y avait pas une masculinité et une féminité, schéma dans lequel tu te retrouvais ni dans l'un ni dans l'autre, mais qu'il y avait effectivement des masculinités et que c'était ok, quoi.
Ouais, c'est ça, il y avait des masculinités, des féminités, et puis qui n'étaient pas réservées les masculinités aux hommes et les féminités aux femmes, mais aussi voilà, des gens qui pouvaient tisser des liens entre les deux et que ce soit plus perméable entre les gens, et ça faisait beaucoup de bien forcément. Ouais.
Effectivement, au vu de ton profil, j'imagine bien, très bien. On a parlé un petit peu de l'enfance, de l'adolescence également. Maintenant, j'aimerais bien aborder un autre terrain, qui est le terrain des applications de rencontres. Ou selon moi, pour le coup, ça, c'est vraiment le domaine où les injonctions sont hyper présentes. Par exemple, moi, quand je vais swiper sur Hinge, je me rends compte qu'on retrouve énormément les codes virilistes, c'est-à-dire que le nombre d'hommes qui vont se présenter torse nu, avec des signes extérieurs de richesse, ou chercher à démontrer qu'ils ont un statut dans la société au travers de leur profession... Je trouve ça un peu surprenant et ça me fait beaucoup penser à justement ce qu'on voit sur les réseaux masculinistes qui parlent beaucoup du 80-20, selon laquelle 20% des hommes pourraient avoir 80% des femmes. Est-ce que toi, du coup, tu le ressens dans le cadre des applications de rencontres ou même au sens large dans tes rencontres en général ?
Alors, sur les applications, oui, forcément, je pense que... Il y a des codes qui sont un peu imposés et qui sont parfois le reflet, on va dire, caricatural un peu de ce qu'on peut voir autour de nous. Des codes de beauté, de ce qu'on essaye de nous imposer comme la belle femme, le bel homme, les gros muscles, tu vas à la salle et puis tu te mets en avant. Et puis voilà, et donc forcément, ça c'est renforcé par la force des algorithmes où à un moment donné, si tu réponds pas à ces critères-là, c'est plus compliqué. Bon, déjà, je pense que le problème, il est plus large que juste les applis de rencontres. Et je pense aussi, surtout, que tout le monde sur les applis peut avoir une chance. Alors bah forcément, on peut subir différemment les algorithmes en se disant bah voilà, si t'es sur une appli qui plus t'es liké, plus t'es mis en avant, bah, en général c'est pas pour rien et puis bah ça va te porter vers ça. Et puis inversement, c'est exactement pareil. Donc bon bah forcément, une fois que tu sais ça, peut-être que t'as pas les mêmes attentes et que tu peux te dire que juste être toi c'est très bien déjà, que faut assumer ça, que ça va te mener vers des rencontres qui vont être plus qualitatives, même si elles sont moins nombreuses. Bah faut aussi savoir pourquoi t'es là. Et donc voilà, je dirais que voilà, dans tous les cas c'est pas très grave de faire 100, mais voilà, si tu vas sur des applis de rencontres, voilà, faut être conscient de ça. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt positif de se dire que tes rencontres elles seront plus quali et que tu en auras un peu moins, mais comment ça te correspondra plus. Ouais.
C'est effectivement une note assez positive pour finir sur les applications de rencontres. Puis il y a aussi le fait que les applications de rencontres ont tendance à reproduire nos propres a priori. J'avais notamment écouté le podcast Être un bonhomme sur, de LSD, la série documentaire sur Arte, dans lequel on entendait un témoignage d'un homme d'une soixantaine d'années, justement, d'une génération un petit peu plus ancienne que la nôtre, on va dire, qui mesurait 1m62 et qui avait fréquenté une femme d'1m72 qu'il trouvait magnifique, mais qu'il avait quittée parce qu'il était persuadé qu'elle allait elle-même le quitter tôt ou tard, parce qu'en fait, c'était impossible dans son imaginaire qu'une femme plus grande que lui puisse l'aimer. Je trouve que c'est assez un exemple assez bon justement du poids, du coup du mythe de la virilité sur les hommes, entre autres bien d'autres problématiques. Et donc pour aller un peu plus loin, maintenant on a parlé du mythe de la vérité, ce à quoi ça correspondait, la pression sur les hommes. J'aimerais également faire une transition sur quel est l'impact sur la société au-delà de pour les hommes, pour les femmes. En fait, la virilité, ça a réellement un coût sur la société. Et c'est d'ailleurs Lucie Pétavin qui, dans son essai « Le coût de la virilité », quantifie l'impact économique des comportements virilistes. Elle sort carrément des chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc pour vous en illustrer quelques-uns, 96,3% de la population carcérale française est masculine. 99% des auteurs de viols sont des hommes. 86% des auteurs d'homicides sont des hommes et 84% des accidents mortels sont des hommes également. Alors, l'idée, c'est pas de dire que tous les hommes sont des délinquants et des criminels, bien évidemment, c'est simplement d'admettre que la majorité des criminels sont des hommes, peu importe les milieux sociaux, peu importe d'où sont issus ces hommes, ils restent toujours majoritaires. Et pourtant, dans les faits divers, dans les médias, ce qu'on va mettre en avant, c'est toujours la jeunesse, le milieu social, la couleur de peau. Alors que le seul facteur qui est vraiment différenciant et qui revient en quasi-permanence, c'est le critère sexuel, qu'on met très peu en avant. Du coup, prenant en compte toute l'évaluation du coût de la virilité, cumulant la justice, la santé, les assurances, elle en est arrivée à la conclusion que le coût annuel estimé de la virilité s'élève à 95 milliards d'euros pour la société française sur une année. Déjà, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu ? Comment réagir à ces chiffres ?
Je ne sais pas s'il y a une bonne réaction à ces chiffres-là. Peut-être, je ne sais pas, on est des hommes et on adore la compétition. Et là, on est premier, donc on doit être super fier. Alors plus sérieusement, ça, c'est juste aberrant et ça pointe voilà, tout le chemin qui reste à parcourir, pas pour inverser ces statistiques, mais juste pour les faire diminuer. Et là, c'est bien un combat de tout le monde. Et voilà ce que tu disais sur... on pointe dans les médias souvent des critères qui ne sont pas juste le fait que ce soit un homme, mais que ce soit un homme racisé, que ce soit un homme de tel ou tel quartier, etc. On se rend bien compte que ce n'est pas la question et voilà, c'est important de le rappeler aussi.
Exactement. Et au-delà de la partie chiffrée, l'idée de cet essai, c'était également d'expliquer maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On constate qu'effectivement, les hommes sont plus violents que les femmes. Maintenant, est-ce que la violence est innée chez l'homme ou est-ce que c'est une construction sociale ?
On ne va pas faire une réponse sociologique et, qui va s'appuyer sur des grandes études de tout ça, mais quand même, oui, enfin... Je pense qu'on en est convaincu que c'est une construction sociale et on le voit avec là tout l'avènement des contenus masculinistes qui pullulent en ligne et qui imposent leur idéologie de pensée, et voilà, qui vont en fait vers ça. C'est t'es un vrai homme parce que tu te bats, t'es un vrai homme parce que tu domines ta femme, t'es un vrai homme parce que tu fais pas la cuisine et machin, t'es un vrai homme parce que t'as des gros muscles et tu sais t'en servir. En gros, t'es un homme et du coup t'écrases les autres et c'est ton rôle. Bah forcément, ça va pas aller en s'inversant si on a plus de contenu comme ça et moins de nuances de l'autre côté. Donc voilà, ça participe aussi à ce genre, enfin ces discussions là qu'on peut avoir, comme là peuvent participer à influencer dans l'autre sens un petit peu ces pensées là, j'espère.
Moi aussi, j'espère. Et pour conclure, dans son essai, je trouve ça assez intéressant. Elle déconstruit un petit peu trois mythes qui ont justement vocation à expliquer ce en quoi la vérité est une construction sociale et non pas innée. Et elle déconstruit notamment un mythe hyper intéressant, celui de la testostérone. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à faire le lien entre testostérone et violence. Et en réalité, des études récentes ont prouvé qu'il n'y avait aucun lien entre la testostérone et le comportement violent. Mais qu'en réalité, la testostérone pouvait également amener à des comportements bien plus altruistes. C'est-à-dire que c'est bien plus en adoptant des attitudes agressives que la testostérone augmente, et c'est non pas l'inverse. La preuve en est, on choisit les moments d'excès de violence. En général, bizarrement, la testostérone, soi-disant, intervient beaucoup plus dans le cadre du cercle familial pour s'énerver contre sa femme que dans le cadre du cercle professionnel pour s'énerver contre son boss. C'est donc bien qu'il y a un moment, elle est choisie. Pourquoi conclure sur cette partie-là, j'aimerais vous faire écouter une chanson que j'adore, qui est Viril de Suzanne, que nous allons écouter tout de suite.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille viril, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paraît que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Ici, je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Merci pour votre écoute. Vous êtes sur Radio U 101.fm. Nous allons désormais passer à la dernière partie, qui est à quoi ressemblerait une société féministe pour les hommes. Et je l'évoquais juste avant, concernant la testostérone que Lucie Pétavin a déconstruit, j'aimerais bien échanger sur un autre essai, enfin qui n'est pas un essai mais qui est une BD que je vous recommande à tous vivement de lire, qui est l'excellente BD Testostérore de Luz, que je vais laisser peut-être Mathieu présenter puisqu'il l'a lu encore plus récemment que moi. Donc je te donne la parole, Mathieu, pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que t'en as tiré de cette BD.
Ouais, bon, déjà pour poser un petit peu le décor, c'est une BD de Luz. Bon, alors c'est un auteur qui est assez connu, assez engagé, pour pas dire militant. Et là, son histoire, on suit alors Jean Pat, qui est un concessionnaire de SUV bien cliché, bedonnant, un petit peu dégueulasse, on peut le dire. un vrai gars, quoi, mais vraiment pas forcément celui qu'on a envie de voir. Et donc, il traverse une pandémie mondiale. Il y a un virus qui fait chuter le taux de testostérone des hommes. Et du coup, il va se réfugier dans une secte ultra mascu d'un de ses potes qui tient une salle de gym. Et voilà, donc on suit l'histoire. Donc, il évolue forcément un petit peu mieux, on l'espère, au cours de l'histoire. Moi j'ai eu un petit peu de mal avec la BD en elle-même, c'est un univers qui est quand même très particulier, c'est très riche, ça fait 300 pages je crois le bouquin, donc c'est quand même un pavé où on rentre dans un univers qui est spécial, hein. Luz c'est pas non plus neutre on va dire, ni comme dessin ni comme approche, voilà, donc sur l'œuvre en elle-même en termes de dessin et tout, moi j'ai préféré son travail pour Vernon Subutex par exemple, l'adaptation des romans de Despentes. Après je trouve que c'est extrêmement riche, nécessaire, drôle quand même, et voilà, ça permet de déconstruire un petit peu l'image de ce gars roi de la saucisse du dimanche avec ses potes, voilà, qui dénigre sa femme qui est dans la cuisine avec les femmes de ses potes, etc. Et donc voilà, ça commence un peu comme ça l'histoire, et puis on voit qu'il y a quand même une évolution qui est quand même aussi rassurante finalement, parce que s'il y avait que ça, ce serait un peu triste. Il y a un message au final qui suggère quand même que en alliant nos forces, et de gars, et de filles, et de ni gars ni filles, voilà, on peut arriver à quelque chose de plus cohérent et de plus positif pour tout le monde, finalement.
Ouais, et puis ce qui est hyper intéressant dans cette BD, c'est aussi qu'il y a une prise de conscience lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est presque utopiste, j'ai envie de dire, on a envie d'y croire, mais dans quelle mesure le cliché du beauf de 60 ans qui a tous les privilèges sociaux est vraiment capable de se remettre en question. Hormis dans un contexte exceptionnel de crise, de pandémie mondiale où il y a une chute de la testostérone, qui pour le coup n'est pas vraiment la cause des masculinistes. Mais moi j'ai adoré cette BD parce que dans cette BD, c'est l'homme qui prend conscience qu'en fait on a tous à gagner à travailler main dans la main, et qui prend lui-même ses distances avec le milieu masculiniste. Et au travers de cette émission, c'est un petit peu ce que j'aimerais en fait, c'est sensibiliser les hommes à ce qu'ils auraient à gagner, eux, à être dans une société, non pas féministe en réalité, mais une société humaniste. Parce que quand on parle de féminisme en général, les hommes ont tendance à l'assimiler au matriarcat, alors que ça n'a rien à voir. Le féminisme et le masculinisme ne sont pas des notions opposées. Une société féministe, c'est une société où on serait tous égaux, et non pas seulement en droit, comme on tend à l'atteindre en France, mais dans les faits, dans la société, et effectivement ben, dans toutes les injonctions masculines et féminines qu'on veut nous imposer. Et le fait que ce soit justement une BD écrite par un homme où le personnage principal soit un homme, pour parler de féminisme, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour parler aussi justement ben, des souffrances en fait, des hommes liées à un mythe viriliste. Et du coup, je trouve que ça donne des bonnes pistes de réflexion sur ben, comment on pourrait imaginer une société féministe slash humaniste pour mieux avancer ensemble. Moi, tu vois, de mon côté, si je t'ai invité, Mathieu, c'est parce que je te considère clairement depuis de nombreuses années comme un allié. Du coup, bah, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, justement, si on veut aller vers une société féministe. Comment, en fait, les hommes peuvent être des alliés, et comment, toi, en tant qu'homme, tu as l'impression, à ton échelle, de contribuer à cet objectif?
Ouais, en continuant à porter cette parole en fait d'égalité et de voilà, c'est un peu pompeux la notion de bienveillance, mais bon, voilà, juste qu'on considère l'autre comme son égal, et en fait c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour l'homme en face sur le trottoir, c'est vrai pour l'enfant qui traverse, bon, c'est voilà, c'est vrai pour tout le monde, et je pense que il y a de ça. Et après, ce qui est vrai dans la BD aussi, c'est que alors oui, il y a une pandémie et ça lui fait prendre conscience de choses. Nous, ce soir, on enregistre une émission, c'est un peu moins violent qu'une pandémie, et on espère qu'il y aura aussi un peu de portée de parole. Et puis au-delà de ça, c'est de continuer, et là, particulièrement entre gars, à ne pas laisser les idées se véhiculer à travers des discours, déjà probablement un peu à l'ancienne, voilà, de blagues vaseuses, misogynes, qui se font voilà, sous couvert de « on est entre nous », donc on peut se permettre de dire que machin, voilà, parce que c'est une femme, c'est comme ça. Bah oui, mais non, en fait, si vous n'êtes pas d'accord quand vous êtes avec des femmes autour de vous, vous n'êtes pas d'accord non plus quand il n'y a que des gars, et c'est important de porter cette voix-là aussi à ces moments où ça peut être parfois un peu plus difficile, où on se sent voilà, en fraternité, ou je sais pas comment dire ça, mais voilà, avec des potes du même sexe, etc. Et c'est là où il faut continuer à casser et à porter cette parole vraiment qui est importante. Pour moi, c'est le principal média. Et puis après, il faut continuer à discuter avec tout le monde. Et c'est l'affaire de tous dans l'éducation au sens large. Voilà, il faut parler à nos enfants, il faut parler dans notre boulot, il faut parler à nos potes, il faut parler à nos parents, à nos tontons, nos tatas.
Bah nickel, c'est exactement ce sur quoi je voulais en venir, puisque en fait tu as parfaitement introduit le dernier extrait que je vais vous faire écouter, qui est celui d'un TEDx de Maxime Runyasansky, désolé pour la prononciation, intitulé « Comment être un homme féministe aujourd'hui ?» Je vous fais écouter rapidement cet extrait d'une petite minute.
Bien sûr, dans la vie, nous ne partons pas tous sur la même ligne de départ, c'est vrai. Mais au global, les femmes partent encore de plus loin. Je ne me suis jamais fait siffler dans le métro, quelle que soit l'heure, quelle que soit la station. Je n'ai jamais fait semblant de téléphoner pour éviter qu'on m'importune. Je ne me suis jamais dit, en prenant un poste dans une entreprise, « Tiens, c'est curieux, j'ai l'impression que la femme à côté gagne plus que moi alors qu'on est arrivé en même temps. » Et surtout, je n'ai jamais eu peur d'annoncer à mon employeur mon futur congé paternité et que j'allais m'arrêter quelques mois. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, oui, je suis privilégié. Et c'est bien de le dire, juste d'en être conscient, de le reconnaître, tout simplement.
Dans cet extrait, comme il l'expliquait, bah, il reprend à peu près ce qu'expliquait Mathieu. La première étape pour pouvoir avancer ensemble vers une société féministe pour les hommes, c'est déjà de reconnaître ses privilèges. C'est-à-dire d'admettre qu'on ne part pas tous du même pied d'égalité. Comprendre également qu'en fait, en étant homme, on a toute la légitimité pour dénoncer les injustices, tout en assumant bien évidemment sa position, et qu'il faut effectivement réagir en permanence aux violences sexistes et sexuelles. Trois sphères sont évoquées, l'éducation, la culture et l'entreprise. Et ce qu'il explique en conclusion dans ce TEDx, que je vous invite vraiment à écouter en entier, ça prend seulement 15 minutes, il explique en quoi les hommes ont tout intérêt à lutter pour une société féministe, parce que l'idéal viril oppresse la majorité d'entre eux, surtout, et pas seulement les femmes. Et donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu vois un dernier point à rajouter de ton côté, Mathieu ?
Non, je vais juste abonder dans le sens de ce que tu disais déjà. Il faut qu'on arrive à se détacher de cette idée de privilège et qu'on ait bien tous collectivement conscience que s'il y a privilège, on est forcément dans un schéma oppresseur-oppressé. Là on parle du féminisme, mais c'est vrai à plein de niveaux, et voilà, dans tous les cas ça donnera rien de positif en tant que société, et ce serait bien qu'on sorte de ces schémas là
et c'est une bonne conclusion. Pour finir, je vais vous faire écouter une chanson que j'adore et que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est Madame de Morgan. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur Radio U 101.fm.
Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux cuisses y'a la porte qui mène les âmes dans le monde des humains, bien sûr appelle-moi madame. Il me dit retourne à la cuisine parce qu'il sait pas la faire. Je l'aime quand il nettoie ma piscine et qu'il remplit mon verre. Je comprends qu'il soit vénère, il a l'impression que je lui ai pris sa place dans l'univers. C'est pas vraiment de sa faute, on lui a dit. Il faut que ta bite soit grosse, mais pas ta petite amie. Il faut qu'elle soit parfaite et qu'elle fasse pas trop de bruit. Sauf au lit, là faut que ça gueule. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux culs, c'est la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, viens se rappelle-moi madame. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux culs, c'est la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, viens se rappelle-moi madame. Celui qui pense que je vais laver ses draps et ses assiettes se met le doigt exactement là où il veut que je le mette. C'est pas de ma faute, j'ai jamais voulu porter de collier. La laisse, on a voulu me la mettre, mais je suis devenu le maître. Le confident, l'homme riche, l'enfant prodige. Je suis le masque et la tepue dans la même pouliche. Entouré d'hommes, si tu savais comme je les aime. Celui qui déverse sa haine ne supporte pas de me voir raide. Je suis plus bonne que ta sœur, plus virile que ton père. Tu m'étonnes que t'es le seul. Tu cherches à faire baisser la puissance de ma crédibilité, hein, ça fait sens. Car ta vie semble être insignifiante. Ton aigreur est le résultat de ta négligence. Ça doit être dur d'être un homme avec des convictions. La masculinité, quelle putain de prison. Quand on est un garçon, je suis qu'un humain de toute façon. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux culs c'est la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, viens se rappelle-moi madame. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux culs c'est la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, viens se rappelle-moi madame.